La confiance en action, les avantages de la collaboration entre la direction et le personnel enseignant. Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Eh bien, bonjour Marc-André, comment vas-tu?
François, je vais très bien, merci. Toi aussi, j'espère?
Eh bien, écoute, ça va bien et ça va toujours très bien quand en plus j'arrive à avoir des gens d'outre-Atlantique. Et pour les auditeurs, donc sachez que j'ai découvert Marc-André en écoutant le podcast L'École branchée et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le rencontre et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et donc, encore merci pour cela. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, je m'appelle Marc-André Girard, je suis directeur d'école j'en suis à ma 17e année, 23e année en éducation. Je travaille dans la région montréalaise, donc environ une heure au nord de Montréal. Je suis directeur d'une école secondaire, ce que vous appelez un lycée chez vous. Et je suis aussi docteur en éducation depuis quelques mois, j'ai terminé mes études doctorales. Je suis auteur et collaborateur aussi à l'École branchée. Alors, voilà, en gros, ce que je fais. Je suis chargé de cours également, ce que vous appelez maître de conférence chez vous. Alors, c'est ça, j'ai plusieurs activités qui gravitent en éducation. Pour moi, l'éducation et la pédagogie, c'est des passions.
Eh bien, dis donc, quel programme!
Oui, t'ennuies pas!
Eh bien, écoute, effectivement, on pourrait parler de beaucoup de choses. Donc, j'aimerais aujourd'hui qu'on se concentre sur la relation entre le chef d'établissement et l'enseignant. Donc en France, le chef d'établissement dans l'enseignement catholique est très souvent aussi un ancien enseignant, et ce qui peut d'ailleurs être embêtant, parce que des fois, là, il y a peut-être une question de positionnement qui est important aussi. Et donc souvent aussi, il est enseignant et chef d'établissement. Donc dans des petits établissements, le chef d'établissement a aussi une classe à gérer, alors à temps complet ou pas à temps complet, mais... Voilà, c'est réalité. Et est-ce que toi, au Québec, c'est à peu près la même chose ou le chef d'établissement est toujours que chef d'établissement?
Non, pas du tout. Ce que nous, on appelle une direction d'école, vous appelez ça un chef d'établissement. Là, la structure est vraiment différente entre les Français et les Québécois sur ce plan-là. Mais c'est un critère pour être chef d'établissement ou directeur d'école, c'est d'avoir été enseignant et d'avoir un brevet d'enseignement. Donc, essentiellement, je suis un ancien enseignant de géographie d'histoire. Et par la suite, je suis devenu directeur d'école à travers des formations, mais aussi des intérêts. Nous, ça nous prend une maîtrise. Non, c'est pas vrai, pas du tout. C'est un diplôme de deuxième cycle que ça prend. Ce qu'on appelle ici un DESS, je ne sais pas si ça existe en France. Oui, donc 30 crédits universitaires, une maîtrise, c'est 45. Alors, c'est un enseignant qui devient directeur par la suite.
D'accord.
Habituellement, commence par une direction adjointe. Il y a quelques exceptions qui peuvent arriver dans des écoles privées. Ici, il y a un réseau privé parallèle. Ça arrive que des directions d'écoles qui viennent du milieu entrepreneurial ou institutionnel qui font le saut dans des approches un peu plus, entrepreneuriales dans certaines écoles, mais dans le réseau public, c'est pratiquement, c'est pas possible.
Et est-ce que est-ce qu'il peut arriver qu'il fasse aussi la classe ou il est complètement déchargé de sa classe?
Ça dépend des écoles. Il y a des plus petites écoles, effectivement, la direction d'école peut aussi avoir une charge d'enseignement, mais dans la meilleure des cas, la majorité des cas plutôt, c'est vraiment des tâches séparées.
D'accord.
Mais ici, il existe une pénurie d'enseignants. Je ne sais pas si c'est la même chose de l'autre côté de l'Atlantique pour vous, mais ici, il nous manque beaucoup d'enseignants et puis on a des classes qui ne sont pas comblées, donc ça peut arriver que des fois que des directions doivent aller en classe, là, assumer une tâche d'enseignant pour dépanner essentiellement jusqu'à temps qu'on en trouve un, c'est-à-dire toute l'année scolaire.
C'est ça. Bon, on a le même problème. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'importance du lien de confiance qu'il y a entre la direction, qu'il doit y avoir entre la direction et le personnel enseignant d'une école, d'un collège ou d'un lycée?
Oui, tout à fait. Ben, écoute, je sais pas trop par où commencer, mais effectivement, c'est quelque chose qui était à explorer puis qui était intéressant. Je me suis intéressé à ce lien-là à la suite d'une lecture dans le cadre de mes études doctorales d'un professeur turc qui s'appelle Aidan Balyer et qui, justement, qui se questionnait sur en gros, la confiance qui existait, le lien qui existe entre les enseignants et leur direction. Et pour lui, c'est, je dirais, une condition sine qua non pour permettre le bon fonctionnement puis l'évolution du milieu scolaire et aussi des pratiques enseignantes. Alors, c'est quand même assez intéressant. Puis, je ne sais pas si tu sais ça, mais en Turquie, en 2016, je crois, il y a eu une tentative de coup d'État, ou 2017, non, 2016, de coup d'État avorté. Et puis, par la suite, il y a eu une purge dans la fonction publique par le gouvernement actuel, le gouvernement Erdogan. Et puis, ils ont limogé des milliers de cadres dans les écoles, mais dans la fonction publique aussi. Et tout ça s'est passé en quelques jours. Et justement, le chercheur, après ça, ils ont été remplacés par des enseignants ou des directions qui avaient moins d'expérience. Et le chercheur s'est questionné à savoir qu'est-ce que ça fait d'avoir une nouvelle direction qui est là avec peu d'expérience, peut-être même pas les qualifications nécessaires. Et c'est dans cette optique-là qu'il s'est questionné sur l'importance de la confiance, parce que le lien de confiance était difficile à établir, vu que ces personnes-là étaient moins expérimentées. Alors, essentiellement, la confiance, c'est un peu le nœud, c'est le lien, je dirais, entre les enseignants et puis la direction, parce que dans une perspective, en tout cas en ce qui me concerne, dans une perspective de partage du leadership, eh bien, il faut partager, on partage ce en quoi on partage des choses avec des personnes en qui on a confiance. Le leadership d'une école, souvent, on pense que c'est simplement la direction ou le chef d'établissement, je devrais dire, qui doit l'assumer, mais aussi, en ce qui me concerne, les enseignants doivent assumer ce leadership pédagogique-là également. Donc, il doit être partagé par la direction et par les enseignants. Mais les enseignants, eux aussi, souvent dans notre conception, on pense que toute la question de la pédagogie, elle est exclusive aux enseignants, mais la direction ou le chef d'établissement doit également assumer un leadership en ce sens-là. Donc, les enseignants doivent le partager. Donc, les enseignants doivent partager ce qui, dans certains cas, ils considèrent comme étant une chasse gardée, mais ils doivent le faire avec une relation de confiance avec leur direction. Sinon, ce partage-là ne se fera pas. Inversement, la direction ne partagera pas bien son leadership. Donc, pour qu'une école puisse assumer son leadership pédagogique, donc leadership de la direction pédagogie enseignant, puis à ce moment-là, il doit avoir une relation de confiance qui permet une certaine, comment je peux dire, une relation qui va dans les deux sens principalement, une relation équivoque. Alors, pour moi, c'est ça qui est très, très, très important.
Oui, donc finalement, le leadership, c'est pas, ça serait pas tellement une personne, mais c'est plutôt la relation qu'il y a entre deux ou plusieurs personnes, quoi.
Il y a beaucoup de recherches qui démontrent, c'est surtout des recherches européennes d'ailleurs, suisses, belges, françaises, qui démontrent que le leadership, en réalité, c'est un lien d'influence. C'est une relation d'influence qui existe entre les enseignants et la direction, mais aussi, sans exclure les parents de l'équation, et même dans certains cas, les élèves. Donc, c'est une espèce de synergie qui existe entre tous les intervenants, les acteurs du monde de l'éducation, du monde de la communauté scolaire, qui exercent leur influence les uns sur les autres. Donc, pour que la direction, pour que le chef d'établissement puisse exercer son influence, bien à ce moment-là, elle doit avoir un lien de confiance. Sinon, les enseignants n'accorderont pas cette crédibilité-là à l'enseignant pour parler de pédagogie. Souvent, à travers les collectes de données, une des collectes de données que j'ai faites, des choses qui ressortit, un des éléments qui ressortit, c'est que les enseignants et la direction ne parlent pas le même langage. Essentiellement, les enseignants parlent un langage qu'on pourrait dire pédagogique et la direction va parler un langage souvent qui est entrepreneurial, marketing, positionnement. Et les enseignants se retrouvent mal dans ce discours-là. Donc, c'est important que la direction puisse parler un langage pédagogique également et s'adapter à leur interlocuteur. Alors, quand on veut partager quelque chose, il faut qu'on soit sur le même niveau. La direction, souvent, elle a une vision qui est beaucoup plus globale, donc qui est macro. Les enseignants ont mon école, le système essentiellement. Tandis que les enseignants, eux, ont une vision qui est beaucoup plus ma classe, mon élève. Déjà qu'on a des lunettes différentes pour étudier des réalités, dans un cas, c'est la lunette micro, dans l'autre cas, c'est la lunette macro, bien, c'est important qu'à tout le moins, on puisse, même si on ne porte pas la même lunette et qu'on n'a pas le même regard, mais au moins qu'on puisse parler le même langage. Ça va faciliter l'établissement du lien de confiance, la crédibilité de la direction qui est capable de parler le même langage de ses enseignants parce que c'est d'abord et avant tout un enseignant. Moi, avant d'être un directeur, je suis un enseignant. Je me préoccupe de la réussite de mes élèves, je me préoccupe des conditions d'enseignement avant de m'occuper des chiffres et de la gestion des ressources de l'école.
Ouais. C'est sûr que en tant que chef d'établissement, on a une vision large de problèmes que l'école peut rencontrer, alors que l'enseignant va avoir des problèmes, mais liés uniquement à sa classe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas voir les problèmes généraux, mais le fait est qu'il se concentre sur sa classe, ce qui est normal.
Tout à fait.
Maintenant, concrètement, comment on peut construire cette relation, ce lien, et comment on peut la maintenir au quotidien?
Bien, dans un premier temps, je pense que ça se fait à travers une relation de proximité. Moi, je dis souvent que la direction, elle est au service de l'école. On a des fois tendance à penser que c'est le contraire, que tout le monde est au service de la direction, mais pour moi, c'est l'inverse. Alors moi, je me place au service des enseignants, des autres intervenants, parce qu'il n'y a pas seulement des enseignants dans une école, mais aussi des parents et des élèves. Alors je suis là, moi, pour rendre des services et j'essaie de faire en sorte que l'équipe de soutien, par exemple les secrétaires ou les différents autres intervenants qui sont en soutien direct auprès des élèves, bien, il y a cette même posture-là. Alors, la posture de service, c'est que moi, je suis une ressource pour rendre service et faciliter le travail des enseignants. À partir du moment où les enseignants réalisent ça, et déjà en partant, c'est un début d'établissement de lien. C'est sûr que dans certains cas, c'est pas tout le monde qui le voit, ou des fois, ça s'établit mal parce que, je veux dire, d'abord et avant tout, c'est un travail de relations humaines, n'est-ce pas? Et puis dans les relations humaines, bien, il y a des relations qui cliquent mieux que d'autres, il y a de la méfiance qui s'installe là, puis qu'elle n'a pas nécessairement quelque chose à voir avec la personne, Marc-André Girard qui assume le poste, mais bien avec la fonction. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver, peu importe qui est assis dans cette chaise-ci, dans ce bureau-là, il va déjà y avoir une méfiance qui va être installée. Donc des fois, ça prend plus de temps que d'autres, mais principalement, pour moi, c'est pas juste d'avoir un discours de la direction, elle est au service, mais de le démontrer à travers des exemples probants. Donc, j'essaie de répondre aux besoins le plus rapidement possible. Je ne laisse pas les choses traîner, ce que je me suis rendu compte qui arrivait fréquemment dans certaines écoles où des fois la direction ne répond même pas à ses courriels ou à ses messages vocaux envers ses enseignants. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est inconcevable. Si quelqu'un prend la peine de me solliciter, c'est parce qu'elle doit, elle a besoin de moi. Ici, à l'école, on a trois directions adjointes qui travaillent avec nous, puis une responsable d'école, si on peut dire, qui s'occupe davantage des ressources financières et humaines et matérielles. Et la deuxième chose que je fais essentiellement, c'est j'essaie de ne pas répondre à tous les besoins parce que je veux outiller mon équipe d'adjointes qui travaillent aussi auprès de l'équipe. Donc, si c'est toujours la direction qui répond à tous les besoins, bien, à ce moment-là, on est un peu en train pas de démobiliser, mais de désengager les autres personnes qui sont beaucoup plus proches du terrain que nous. Alors, une des choses que j'essaie de faire, c'est de faciliter l'accessibilité à la direction en commençant par ouvrir la bonne porte. Donc, moi, je demeure en soutien toujours, mais dans l'idéal, c'est que les demandes ne se rendent pas à moi. Donc, qu'elles se rendent aux directions adjointes. Alors, il y a une question d'habilitation, c'est le mot que je cherchais. Donc, d'habilité plutôt, je ne me souviens jamais c'est lequel des deux mots, mais habiliter les directions qui sont là à pouvoir résoudre les problématiques qui sont soulevées et faire également le nécessaire pour que l'environnement d'enseignement ou d'apprentissage, c'est selon, puisse être le meilleur. Donc, principalement, pour moi, ces deux clés qui sont importantes, qui ne sont pas souvent dites à haute voix, qui ne sont pas souvent ciblées. Ce n'est pas souvent un discours qu'on entend au niveau du leadership pédagogique, au niveau de l'habilitation des intervenants. J'ai écrit un texte, justement, on parlait de l'école branchée tantôt. J'ai écrit un texte, je pense, en 2017, qui, à ma très grande surprise, qui est utilisé souvent dans des communautés d'apprentissage, qui s'appelle « L'art subtil d'être inutile ». Donc, comment une direction peut être inutile? Donc, évidemment, c'est caricaturé, bien sûr, là, mais c'est essentiellement, on se rend compte que quand tout le monde connaît son rôle, puis joue son rôle, et à ce moment-là, les directions, les chefs d'établissement, comme vous les appelez, sont libérés pour faire d'autres travails. Donc, celui de développer, de penser son école, de voir à la transformer, de travailler sur des dossiers qui sont plus importants que résoudre des petits problèmes. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, j'étais à Montréal avec des amis, puis on avait été manger dans un restaurant. J'ai un de mes amis qui est pêcheur dans l'Est québécois, et puis il pêche du thon. Vous savez, les espèces de poissons qui pèsent, je ne sais pas moi, 500 kilos ou quelque chose comme ça. Et il les vend à un restaurant très réputé à Montréal qui s'appelle Le Toqué. Et qui, donc, à un moment donné, il est venu le porter. Et puis, on était assis. Le chef arrêtait pas, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Puis, je lui demandais pourquoi il ne répond pas. Il disait, ils doivent se débrouiller sans moi. Ils sont capables de se débrouiller sans moi. Puis, à un moment donné, il a décroché après 5 ou 6 appels. Et puis, il a décroché. Il dit, oui, salut, comment est-ce que je peux être inutile? Et puis, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, je fais un peu le même travail. J'étais un peu un chef dans mon école. Puis, je me dis, si lui, dans son restaurant, avec des clients qui viennent ici, puis on sait que dans la cuisine d'un restaurant, c'est très... ça joue dur, n'est-ce pas? Ben, si dans cet environnement-là, on a un chef qui a un chef, je parle dans le sens cuisinier, là, qui a cette préoccupation-là de faire en sorte que les personnes qui soient là aient le plus de pouvoir et le plus grand rayon d'action possible, pourquoi de mon côté, je ne pourrais pas faire ça? Donc, j'essaie pas seulement d'établir ma crédibilité, mais aussi d'établir la crédibilité des autres personnes, à commencer par les enseignants eux-mêmes. Comment est-ce qu'eux peuvent résoudre leurs problématiques? Quand ils ont besoin d'aide, donc j'essaie de faire en sorte qu'ils soient le plus autonomes possible. Quand ils ont besoin d'aide, comment l'équipe d'adjointes est capable de mieux les encadrer, d'être le plus accessible possible? Et après ça, moi, comment je peux me mettre en position pour être le plus accessible possible également pour répondre à ces besoins-là ou résoudre des problématiques qui n'ont pas pu être résolues au premier ou au deuxième niveau, essentiellement.
Et je pense aussi que dans la façon dont on répond, moi, souvent, on me dit « j'ai tel problème » et on attend de moi que je trouve une solution. Mais j'ai plutôt tendance à renvoyer la balle en disant « mais qu'est-ce que tu me proposes comme solution ?» Enfin, parce que j'ai pas la science infuse non plus et n'étant pas non plus concrètement sur le terrain. Et donc, c'est à partir des solutions que l'homme me propose que j'accompagne la personne à choisir la meilleure. Mais j'évite toujours maintenant de donner tout de suite... mon point de vue ou ma réponse miracle, j'allais dire. Et j'essaye plutôt de partir de ce que les autres proposent.
Parce que je suis à la même page que toi, François. J'essaie de faire comprendre que quand vous rentrez dans mon bureau, vous allez sortir avec encore plus de questions que quand vous en aviez quand vous êtes rentré. Et je pense que c'est normal. Les problématiques sont de plus en plus complexes dans nos écoles aussi. C'est pas une seule personne qui peut les résoudre. Et la collaboration, elle est importante. Et moi, je me situe dans ce cercle de collaboration-là, où est-ce qu'effectivement, on va trouver des solutions ensemble. Et souvent, c'est facile de venir dans le bureau, puis de lancer le problème, puis de sortir, puis de dire « bon, mais ça ne m'appartient plus maintenant, quelqu'un d'autre va le résoudre ». Mais souvent, quand on va le résoudre, ça ne sera pas à la convenance de la personne. Parce que, tu sais, quand on parle d'environnement, mettons un problème dans la classe d'un enseignant. Moi, je ne travaille pas dans cette classe-là. Alors, il faut que la solution que je vais proposer soit bien calquée aux besoins des élèves, aux besoins de l'enseignant. Alors, si je prends cette décision-là seule dans mon bureau ou avec mon équipe de direction adjointe, bien, à ce moment-là, je ne suis pas du tout, en adéquation avec les besoins. Donc, c'est important que l'enseignant soit mis à contribution puis même qu'il propose des choses. Puis je leur dis, si vous venez m'exposer un problème, venez m'exposer aussi une solution. Puis peut-être que la solution ne sera pas bonne, mais on va partir de là pour trouver quelque chose de faisable et de viable pour tout le monde.
Ouais, tu vois, ça me fait penser à un autre exemple. On a refait le sol dans des salles et on a demandé aux femmes de ménage ce qu'elles préféraient. Et donc, elles ont été très, très contentes parce que déjà, on s'intéressait un peu à leur travail. Parce que après, c'est elles qui vont devoir nettoyer ces sols. Et on a pris en compte, en fait, leur problématique. Donc, je pense, là aussi, c'est important, voilà, de demander les choses ou encore là, on discutait avec une enseignante sur le livret scolaire. Et je disais, dis donc, vous mettez beaucoup de choses. Et moi, je me pose la question en tant que chef d'établissement, est-ce que c'est si important d'en mettre autant ou est-ce qu'il faut réduire, etc. Et je me dis, en fait, stop. À qui c'est destiné? Aux parents, en fait, c'est à eux qu'il faut demander. C'est pas forcément à nous de décider des choses alors que ça ne nous concerne pas. Enfin, c'est pas que ça ne nous concerne pas, mais c'est pas pour nous, voilà, directement.
Mais ce qui est drôle dans tout ça, là, c'est que prendre la peine de consulter, c'est quelque chose qui s'est perdu à quelque part. Et les enseignants et le personnel scolaire, je devrais dire, sont tellement habitués d'avoir une décision qui décide tout de façon pratiquement unilatérale que quand on prend le temps de consulter les enseignants, il y a des enseignants qui l'apprécient aussi, mais jusqu'à un certain point, parce qu'après ça, ils vont trouver qu'on ne prend pas de décision. Et qu'on consulte trop. Et moi, je me le fais reprocher de dire, là, prends-la la décision. De quoi prends-la la décision? Vous voulez que je prenne une décision pour mieux la contester après? Tandis que quand on prend une décision, puis on engage les personnes, et à ce moment-là, c'est une décision de groupe. On ne peut plus la consulter. On a pris la meilleure décision de groupe. Donc, c'est plus lent, ça va moins vite, mais à quelque part, la décision est de loin meilleure. À mon sens. Puis une bonne décision va évidemment toujours avec le contexte, parce que pour moi, on va dire qu'on a le même problème, toi et moi, dans nos écoles, ou la même problématique, je devrais dire, mais tu vas trouver la solution A, puis moi, si j'applique la solution A de mon côté, ça ne fonctionnera pas pour différentes raisons. Donc, il faut que ça soit la meilleure solution pour le meilleur problème au meilleur endroit, donc il y a un contexte, et bien sûr, au meilleur moment aussi. Donc là, on ajoute pas des critères, mais des conditions qui font en sorte que on n'a pas le choix de s'adjoindre des personnes pour prendre cette décision-là. Alors, je remarque aussi quand on a un leadership qui est partagé puis décentralisé, bien, il y a des personnes qui sont inconfortables
Oui.
parce que ça crée de l'ambiguïté. Donc, il y a une question d'habitude, il y a une question de confiance, bien sûr, à avoir, là, que la personne qui prend la peine de consulter, le fait avec les bonnes raisons derrière la tête, puis qu'elle le fait pas je sais pas moi, pour étirer le temps ou parce qu'elle n'est pas capable de prendre des décisions, mais bien parce qu'elle veut prendre la meilleure décision. Puis ça, c'est. Moi, j'ai remarqué que c'est un très, très beau discours pour les directions, mais des fois, sur le terrain, les enseignants, c'est plus difficile à atterrir parce qu'il y a un inconfort dans cette ambiguïté-là. Au niveau de la tolérance à l'ambiguïté, ça fonctionne pas avec tout le monde, donc ça prend un certain temps.
Oui, c'est quelque chose aussi d'important de dire, parce que le podcast s'adresse aussi à des gens qui se posent la question pour devenir chef d'établissement, c'est que la confiance, ça prend du temps à s'installer. On a beau être expérimenté, quand on arrive dans un nouvel établissement, il faut considérer qu'on a une année au minimum pour créer suffisamment de liens pour qu'il y ait de la confiance qui s'installe. C'est pas.
Puis aussi, il y a aussi des façons, à partir du moment où il y a un lien de confiance qui s'est installé, plus rapidement avec certains que d'autres, mais ceux avec qui on a eu ce lien de confiance-là rapide, on peut les utiliser aussi pour pouvoir mobiliser les autres que nous, on n'est pas capable de mobiliser. Tantôt, je parlais que dès qu'on est assis dans cette chaise-là, dans ce bureau-là, il y a une certaine méfiance, mais quand on est capable de faire porter un dossier, un message par une équipe qui est déjà là, qui elle y croit, qui est essentiellement le même message que la direction, bien, à ce moment-là, ils vont devenir des émissaires et eux vont être en mesure d'aller mobiliser un peu comme un effet multiplicateur. Donc, essentiellement, c'est qu'à partir du moment où il y en a qui ont confiance en nous, qui ont vu le bon dans ce qu'on est en train de faire, bien, ces personnes-là deviennent des émissaires, deviennent des porteurs de messages. Essentiellement. Et c'est pour cette raison-là, si vous lisez ou vous regardez, il y a une vidéo vraiment intéressante, puis peut-être le lancer à tes auditeurs, François, ça s'appelle Leadership Lessons from the Dancing Guy, ou quelque chose comme ça sur YouTube. Puis on a une personne qui danse dans un parc, sur une petite colline, et tout le monde le trouve bizarre, et puis soudainement, il y a une autre personne qui s'en vient, puis il y en a
Ah
une autre
oui.
qui vient de danser avec lui. T'as-tu déjà vu ça? Oui.
Oui, tout à fait. Puis après, la foule
Et.
entière se met à danser.
Exactement. Et le narrateur explique que ce qui compte, c'est que c'est pas le leader lui-même, c'est ceux qui suivent. Et c'est eux qui appellent leurs amis à venir. Donc, ils vont témoigner de la sécurité, ils vont témoigner du message, ils vont dire oui, c'est bon, c'est fondé, venez maintenant avec nous autres. Donc, il y a ceux qui sont un peu plus craintifs puis qui n'osent pas embarquer tout de suite pour différentes raisons. Donc, c'est pour cette raison-là que les enseignants qui y croient et avec qui ceux qu'on a été capables de mobiliser, mais ces personnes-là, il faut les laisser faire leur travail de mobilisation auprès de l'équipe. Mmh. Alors, il y a ça aussi. Et puis, donc, c'est comme une confiance, une crédibilité qui s'impose, mais par personne interposée, pratiquement, oui. Essentiellement.
C'est comme le rire, c'est communicatif.
Oui.
Donc, quand il y a des gens qui commencent à avoir confiance en nous, forcément, ils transmettent aussi ça.
Oui, exact.
OK. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour, sauf si j'oublie quelque chose, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner justement à un futur ou un jeune chef d'établissement?
Le conseil s'impose de lui-même, le développement professionnel. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. On parlait d'établir une confiance puis d'une crédibilité dans un premier temps. On veut que nos enseignants soit dans des démarches de développement professionnel, mais il faut que la direction donne le ton dans un premier temps. Alors, je pense que c'est important nous-mêmes de s'impliquer dans des activités de développement professionnel, d'une part, et aussi de faire le nécessaire pour que les enseignants... Ça, c'est le développement professionnel, pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a ce qu'on a, on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a ce qu'on appelle les environnements capacitants, qui est un terme qui vient d'ailleurs de, je pense, de la Belgique ou de la France, je ne me souviens pas, mais d'un ergologue, un ergonome plutôt, qui s'appelle Pierre Falzone et qui met l'accent sur mettre en relief, rendre accessible plutôt toutes les ressources possibles pour que la personne, donc l'enseignant dans ce cas-ci, puisse faire son travail. Les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles et aussi le temps. Donner le temps à notre école, à nos enseignants, à notre personnel de se transformer. Se donner le temps, mais donner le temps aussi aux autres. Souvent, on est pressé. Hein. Mmh. On est pressé et on veut que les choses changent rapidement parce qu'on voit des choses, peut-être que d'autres ne voient pas, mais il y a une culture organisationnelle qui doit être transformée aussi, puis cette culture-là, elle ne change pas rapidement. Donc, c'est qui? C'est Alexandre Solzhenitsyn qui disait, je pense, dans l'archipel du Goulag, la mentalité humaine, si elle évolue, ce n'est guère plus vite que le profil géologique de la Terre, ou quelque chose comme ça. Alors, il faut prendre en considération que les gens se transforment et changent lentement et déployer différentes stratégies pour parvenir à nos fins, qui sont celles de l'école essentiellement, qui a besoin d'être le mieux ancré possible dans la société et non pas d'évoluer en marge de la société.
OK. Eh bien, merci pour tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le monde de l'Internet?
On peut me trouver sur Twitter. Je tiens bon, là. Je sais que Twitter est sous d'intenses tribulations. Alors, Emma Girard, vous pouvez me trouver là. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est là qu'on a, on a pris contact, François, sur LinkedIn. Liens, ouais. J'ai une page Facebook qui s'appelle Emma Girard également. Qui me permet de partager quelques idées, puis aussi qui m'a permis de faire un récit. J'étais allé en Finlande de 2 semaines, à peu près il y a un petit peu plus qu'un an. Donc, on a fait tous nos récits de voyage en Finlande à cet endroit-là. Donc, je suis la façon la plus facile, ces trois plateformes-là, mais aussi l'École branchée. Alors, si vous allez sur l'École branchée, j'ai publié une centaine d'articles. Et présentement, j'ai un podcast qui parle justement de la nuance en éducation. Donc, j'essaie d'aborder des sujets qui sont sensibles, mais de façon nuancée, parce qu'en éducation, souvent, le discours est très polarisé. Hein. C'est ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ouais. Il n'y a plus de juste milieu. Donc, j'essaie d'exposer les deux côtés avec des arguments basés sur la recherche et la pratique aussi. Alors, voilà où on peut me trouver essentiellement.
Ouais, bah merci beaucoup. J'espère que cette conversation sera éclairante aussi pour les auditeurs. Il faudra certainement qu'on se revoie hein, pour parler, par exemple, des compétences du 21e siècle pour les enseignants.
Ouais. Mais je vais en France une fois de temps en temps donner des formations. J'ai eu cette chance-là d'aller faire un tour. La dernière fois, je suis allé, je crois que c'était en 2019, oui, participer à un congrès dans le sud de la France. À Sofia, Antipolis, je vais à Nice. Je suis allé plusieurs fois à Paris au ministère de l'Éducation aussi. Donc, puis aussi dans des écoles. J'ai travaillé avec le CRI, le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, l'équipe de François Tadié, Angeanceau. Mm-hmm. Alors, c'est ça, à l'université à Toulon également, fait que j'ai pu me promener dans votre superbe pays à plusieurs reprises. Peut-être qu'à un moment donné, on va se croiser.
C'est ça. Parfait. Mais écoute, un grand merci et puis bonne journée.
Merci François.
Un grand merci pour ton écoute. Je suis François Jourdain et chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Tu souhaites recevoir une fois par mois un texte ou un document que j'ai créé sur des sujets divers, abonne-toi à ma liste de diffusion. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement, parce que gérer une école c'est bien, mais partager c'est mieux et ça rend heureux.